Après avoir partagé un peu dans la parole de Dieu, on va faire cela. Ils ont chacun un petit témoignage qu'ils veulent donner. Et puis, on va les baptiser au nom de Jésus. Ça va être vraiment, vraiment quelque chose de merveilleux. On a raison de se réjouir ce matin. Et en fait, la Bible dit que tous les anges du ciel se réjouissent si un pécheur se répand. Donc, si au ciel, on sait qu'il y a un gros parti qui se fait, tout le monde est content parce qu'il y a une personne qui se répandit, laisse-moi vous dire que je pense qu'on a raison de se réjouir aussi ici sur la terre, n'est-ce pas? On vient de finir une série, les citoyens du ciel, et on voyait que Jésus nous a enseigné à prier que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Et s'ils se réjouissent dans les cieux, il faut qu'on se réjouisse ici sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Avant de faire le baptême, on va regarder les choses dans la parole de Dieu. J'espère que tout le monde a reçu une feuille avec les notes. C'est marqué qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est le titre du message ce matin. Et ici, à l'église, la vie comblée, on aime faire une petite déclaration de la foi. Avant de prêcher la parole, il y a un principe qui est enseigné dans la Bible qui dit que ce qu'on croit de notre cœur et ce qu'on confesse de notre bouche s'accomplit. En fait, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Jésus a même dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce que dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, c'est vraiment un principe spirituel. On croit avec le cœur, on confesse avec la bouche. Et c'est pourquoi on aime faire cette déclaration. J'invite tout le monde à prendre, si vous avez une Bible, votre Bible dans vos mains. Sinon, si vous avez une feuille avec les versets de la Bible, prenez votre feuille. On va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais et pour éternité changé et transformé dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On aime faire cela. Ça nous aide, ça nous prépare pour recevoir le message. Mais tantôt, on va voir des personnes qui vont suivre le Seigneur Jésus dans les eaux de baptême. Et ces personnes ont pris une décision. C'était une décision qu'ils ont prise avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de sincérité. Et c'est une chose importante. Et en priant pour le message aujourd'hui, j'avais à cœur de partager certains versets de la parole de Dieu. Si on peut regarder Actes chapitre 8, on va voir l'exemple d'un autre monsieur qui voulait se faire baptiser. Un autre monsieur qui a pris la décision de suivre Jésus et d'obéir à Jésus en se faisant baptiser. Et ça s'est passé en Actes chapitre 8. Philippe est allé prêcher dans une ville de Samarie. Il y avait beaucoup de gens, il y a une croisade, beaucoup de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et puis le Seigneur a dit à Philippe, l'évangéliste, d'aller dans le désert. Et dans le désert, il a rencontré un homme. Un Éthiopien, c'était quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement, c'était une personne d'importance, une personne qui avait beaucoup d'influence à l'époque même, mais il était dans son char. Vous savez qu'ils avaient les voitures, hein? C'est ça qu'il dit, hein? En Actes chapitre 8, verset 35, « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Donc, de toute évidence, quand Philippe a prêché à ce monsieur dans son char, non, on sait que c'était pas un Ford, mais c'était un char avec les chevaux, on sait que, de toute évidence, il a parlé du baptême aussi. Parce que Jésus a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc on sait que croire en Jésus et se faire baptiser, ça fait partie de l'Évangile. Et on voit que l'homme, il pose la question, voilà, il y a de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et voici qu'est-ce que Philippe a répondu. Il dit, ici, en verset 37, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, Vois-tu? Voici la seule condition pour se faire baptiser. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. C'est-à-dire que si tu ne crois pas de tout ton cœur, cela n'est pas possible. N'est-ce pas? On ne fait pas le baptême pour les personnes qui ne croient pas, on fait le baptême pour ceux qui croient. Et ça, c'est une raison même pour laquelle, parce que souvent les personnes posent la question, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas le baptême pour les nourrissons, pour les petits bébés? Qu'est-ce qu'on fait? On croit vraiment que c'est important de faire une présentation devant le Seigneur des bébés. Dans le fond, c'est un temps de consacrer nos enfants au Seigneur et c'est un temps pour les parents de se consacrer à élever leurs enfants dans la voie du Seigneur pour que les enfants puissent prendre leur propre décision dès qu'ils croient. Avant d'être baptisé, il faut croire. Et il a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu? Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et il fit arrêter le char. Il a freiné? Non. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Vois-tu, ils sont descendus dans l'eau aussi. Ça, c'est juste un petit détail. Des fois, les personnes posent la question, pourquoi est-ce que vous ne faites pas les baptêmes par aspersion, avec quelques gouttes sur le front, mais on fait le baptême par immersion, parce qu'on voit même ici, ils sont descendus dans l'eau. Le mot « baptizo » même, c'est un mot qui signifie d'être trempé. Comme on va prendre un morceau de tissu pour mettre de la couleur, on va le tremper complètement, submerger dans la teinture pour que ça sorte une autre couleur. C'est la même chose dans le baptême. Le baptême, on va voir tantôt, ça représente notre mort avec Christ, notre enterrement avec Jésus-Christ et notre résurrection avec Jésus-Christ. Amen. Mais il dit ici, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit... Oh, pardon, j'ai sauté une partie. Et ils descendaient tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que la Bible est vraiment inspirée de Dieu? Donc, ce n'est pas une exagération ici. L'Esprit de Dieu a vraiment pris Philippe. C'est-à-dire que l'eunuque s'est fait baptiser, il sort de l'eau et tout d'un coup, le gars qui l'a baptisé est disparu. Ça, c'est mieux que Air Canada, n'est-ce pas? C'est moins cher que Air Canada aussi. Pas de file d'attente, rien. Pas de taxes pour les regards, rien. Hein? C'est pas mal bien. Mais Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc on voit que ce monsieur a pris une décision. Il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Il croyait de tout son cœur. Et parce qu'il a cru, c'était possible pour lui de se faire baptiser. Et des fois, on doit se poser la question, c'est quoi la différence entre une personne qui reçoit le Seigneur Jésus, qui est baptisée, hein, qui est sauvé de ses péchés, une personne qui n'est pas sauvée de ses péchés. Hein? Est-ce que vous avez remarqué que dans le monde, si on peut regarder, il y a certaines personnes qui marchent dans la bénédiction de Dieu et d'autres personnes qui ne marchent pas dans la bénédiction de Dieu? Il y a certaines personnes qui sont guéries de leur maladie ou d'autres personnes qui ne sont pas guéries de leur maladie? Il y a certaines personnes qui ont une telle expérience tandis que d'autres personnes n'ont pas une telle expérience. Il y a une différence, n'est-ce pas? Et si on ne fait pas attention, on peut faire l'erreur de penser ou de croire que c'est Dieu qui choisit en disant, « Toi, je pense que j'aime la façon que tu souris, donc je vais te bénir aujourd'hui. Hein? » Mais l'autre personne, j'aime un peu moins son visage, je ne pense pas que je vais le bénir. Et c'est comme on a cette impression que Dieu choisit, Dieu décide, je vais bénir un tel, je ne vais pas bénir un autre. Mais ça, ce n'est pas du tout le cas. On voit en réalité que Dieu est bon et il est bon pour tout le monde. On sait que Dieu aime et Dieu aime tout le monde. Et qu'est-ce qu'on veut souligner aujourd'hui, juste pour quelques minutes? Et c'est ça la chose qui est revenue dans mon cœur pendant que je priais. Je demandais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec l'Église ce matin? Et j'ai vraiment eu à cœur de partager ce message, qu'il vous soit fait selon votre foi. sachez qu'il n'y a pas vraiment une différence entre les personnes qui vont se faire baptiser aujourd'hui et vous. La seule différence peut-être entre eux et vous, c'est la foi. Dieu n'aime pas une personne plus qu'il aime une autre personne. Dieu aime tout le monde, pareil, pareil, pareil. Et comme Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Jésus a dit quelque chose de semblable en Marc chapitre 9, verset 23, et c'est dans vos notes. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc on voit, tout est, on va le dire ensemble, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas, cela n'est pas possible. Et on sait l'exemple, ici en Marc chapitre 9, c'est un père qui a amené son enfant qui était tourmenté par les démons et qui avait des crises, comme presque les crises d'épilepsie. Et il disait, « Oh Seigneur, je sais que si tu veux, tu peux faire quelque chose. » Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas une question de pouvoir, ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de croire. Dieu veut et il peut et il va le faire aussi longtemps que nous faisons notre part, qui est tout simplement de croire. Amen. En fait, Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, on va le dire ensemble, quiconque croit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc encore, ce n'est pas Dieu qui choisit toi, j'ai choisi que tu vas aller à l'enfer. Toi, j'ai choisi que tu vas aller au paradis. Non, Dieu ne veut qu'aucun périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il aime le monde entier. Et quiconque croit en lui va être sauvé. Donc, le choix, ce n'est pas avec Dieu. Le choix, c'est avec nous. C'est notre réponse à son amour qui compte, n'est-ce pas? En fait, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? La première chose dans vos notes que j'ai marquée, c'est que la foi est le moyen par lequel on peut recevoir de Dieu. Dieu est un bon Dieu qui donne et qui donne et qui donne toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. Dieu donne et il donne et il donne et il donne. Mais pour qu'on reçoive, il faut qu'on ait la foi. La Bible dit en Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Hein? On ne peut pas mériter le ciel. On ne peut pas gagner le ciel. Il n'y a personne ici qui est aussi bon pour aller au ciel sur ses propres mérites. Est-ce que vous êtes d'accord? On a tous mérité l'enfer, mais on a tous hérité le ciel. Si on a la foi, on peut le recevoir. Amen. Et ça marche pour le salut, ça marche pour la guérison, ça marche pour toutes les bénédictions de Dieu. Peu importe ce que Dieu veut vous donner, il faut que nous ayons la foi pour recevoir. Amen? Donc, juste quelques exemples dans les Écritures. On va lire ce matin, juste pour souligner ce fait. C'est tellement important. Vous vous rappelez de l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang? Sinon, je vais lire l'histoire. Hein? Marc chapitre 5, c'est dans vos notes. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça, c'est long, vous êtes d'accord? Être malade pour 12 ans du temps. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Donc là, elle n'est pas juste malade, elle est cassée aussi. N'est-ce pas? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. Tout le monde dit, « Une force était sortie. » La force était en lui, n'est-ce pas? C'est comme dans les murs ici, on a du courant, on a d'électricité qui est dans les murs. Mais l'électricité, le courant ne va pas sortir à moins qu'on fasse quelque chose pour le faire sortir, n'est-ce pas? Je suis content, et vous? Je suis content que le courant ne soit pas du prise à chaque fois qu'on passe devant. Quelque chose avait besoin de se passer. Quelqu'un avait besoin de faire quelque chose afin d'activer cette puissance, afin de faire sortir la puissance. Et Jésus, il a dit, il connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule, Seigneur, qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? » Je veux que vous ayez vraiment l'image. Jésus marche, il ne marche pas avec deux ou trois personnes. Il y a une foule de personnes, probablement des milliers de personnes qui le pressent. Il est tout serré. Et cette femme qui est malade avait besoin probablement à genoux d'aller et puis prendre sa main et toucher juste le bord de son vêtement. Et là, il dit, quelqu'un m'a touché. Tu peux imaginer les disciples. Ah, oui, il y a à peu près 1000 personnes qui te touchent, Jésus. Non, mais c'est pas ça. Quelqu'un l'a touché avec quelque chose. Et cette personne qui l'a touché avec quelque chose a reçu quelque chose. Regarde qu'est-ce que Jésus a dit. Qui m'a touché? Et regardez autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et, oh pardon, ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et regardez autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante. Pourquoi? Plusieurs raisons. Parce que de un, à l'époque, en Israël, une femme touche pas un homme comme ça, surtout une femme qui est en train de saigner, parce que c'était considéré impur. Elle aurait pu être lapidée même. C'est sérieux, hein? Donc, elle était toute tremblante. Sachant ce qui s'était passé, mais quand on est désespéré, on est prêt à faire n'importe quoi pour recevoir de Dieu, n'est-ce pas? Même malgré la foule. Mais, regarde bien. Effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » C'est quoi qui a sauvé cette femme? Sa foi. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Donc, vois-tu, ce n'est pas une question que Jésus se promenait et puis il a dit, « Cette femme-là, je vais décider de lui donner la guérison. » Il y a d'autres personnes qui sont malades, mais je m'en fiche. Mais elle, oh, j'aime sa robe, je vais la guérir. C'est pas ça. Non, c'est elle, de son propre gré, qui a pris une décision de toucher le bord de son vêtement en sachant que la puissance de Dieu était en Jésus, la force de Dieu était en lui, et la force de guérison était en lui. Et cette force, cette puissance, comme le courant dans le mur, est sortie quand elle a touché le bord de son vêtement, pas avec sa main physique seulement, mais elle a touché Jésus par la foi. Laisse-moi vous dire, si vous touchez Jésus avec votre foi, la force et la puissance de Dieu va couler dans votre vie. Amen. Et vous allez recevoir de Dieu. Que ça soit le salut pour votre âme, la vie éternelle, que ça soit la guérison pour votre corps, que ça soit d'autres choses. Vous avez des choses que Dieu a promis, recevez par la foi. La foi est le moyen par lequel on peut recevoir de Dieu. Et une manque de foi est la chose qui peut nous empêcher de recevoir de Dieu aussi. Le chapitre suivant, on voit Jésus, il va dans sa propre ville. Et là, les gens commencent à dire, mais n'est-ce pas Joseph, n'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? On connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Pour qui est-ce qu'ils se prennent? Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est dans vos notes. Et il ne put faire là aucun miracle. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas faire miracle, il ne pouvait pas faire miracle là. Pourquoi? Hein, si ce n'était qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Vois-tu? On croit au miracle dans cette église. Qui ici a été guéri vraiment surnaturellement? Les médecins ont même dit, ça c'est, on ne comprend pas, c'est hors de notre contrôle, mais vous avez reçu quelque chose, levez la main. Moi, je connais plusieurs de vos témoignages. Un cœur nouveau, hein? Cécile, elle avait des gros problèmes. Le médecin a dit, on ne comprend pas, mais vous avez un cœur d'une jeune femme de 21 ans. C'est comme vous avez eu un cœur nouveau. C'est les médecins qui ont dit cela. Hein? La bactérie mangeuse de chair, sur le point de mourir dans un coma. Et laisse-moi vous dire, les médecins Moi, j'ai entendu de ma bouche les médecins qui ont dit, il y a un autre qui est plus grand que nous, hein? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et pour recevoir de Dieu, qu'est-ce que ça prend? C'est la foi. Il faut croire. L'incrédulité. Et si on croit à cela, il y a d'autres personnes qui vont dire, mais vois-tu, on ne croit pas au miracle. Moi, je n'ai jamais vu des miracles. Mais est-ce que vous croyez au miracle? Non. Mais ce n'est pas étonnant que vous n'avez jamais vu un miracle. Vous ne croyez pas au miracle. Hein? Et la façon que ça fonctionne, il faut croire avant de voir. Il y a des personnes qui veulent voir avant de croire, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Regardons bien, il y a juste un couple d'autres versets qui soulignent ce fait. En Matthieu chapitre 9, verset 28, « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? »« Oui, Seigneur, lui répondit-il. » Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Qu'est-ce que Jésus aurait dit s'ils auraient dit, « Non, je ne crois pas en tout, que tu peux me guérir, Jésus. » Qu'il vous soit fait selon votre foi. Mais ils ont reçu le recouvrement de la vue par la foi. En Matthieu chapitre 8, il y avait un centenier qui est allé voir Jésus parce qu'il avait un serviteur qui était malade, paralysé, pas capable de marcher. Il est allé voir Jésus et Jésus a dit, « Bon, pas de problème, je vais aller, je vais prier pour lui, je vais aller le guérir. » Le centenier a dit, « Même pas besoin d'aller, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement la parole. » Et mon serviteur serait guéri. Car moi aussi, je suis un homme sous autorité. Et je dis à mes soldats, va, ils vont aller, etc. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jamais. J'ai jamais vu une si grande foi en tout Israël. C'était même pas un juif qui a dit cela. C'était un centenier. J'ai jamais vu une si grande foi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Les gens vont se faire baptiser selon leur foi ce matin. Les gens qui sont malades aujourd'hui, vous pouvez recevoir la guérison aujourd'hui. Les personnes qui ont d'autres choses dont vous avez besoin de recevoir de Dieu, la clé, c'est d'avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus on entend la parole de Dieu qui révèle la volonté de Dieu, plus on est capable de croire. Et plus on croit, plus on reçoit. Amen? Et c'est ça, deuxième chose, deuxième blanc dans vos notes que je voulais que vous remplissiez, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Mais il honore la foi. Dieu n'a pas des chouchous. Il n'a pas des favoris. Il ne dit pas « j'aime tel, j'aime pas un autre ». Dieu aime tout le monde et Dieu offre à tout le monde. Il met devant nous la mort et la vie, la bénédiction, la malédiction. Et il nous donne le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, la bénédiction, la malédiction, la vie et la mort. C'est à nous de choisir. Amen. Il ne fait pas exception de personne. Le verset Romains 2:11 dit « car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne ». Il n'y a pas d'exception de personne. Romains 1, 16 dit, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Il ne fait pas exception de personne. J'ai quelque chose ici. Vous savez c'est quoi? C'est une scie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la scie a en commun avec le clavier? Hein? Est-ce qu'on peut faire la même chose avec un clavier qu'on peut faire avec une scie? Est-ce qu'on peut jouer la musique avec ça? Jean-Charles, peut-être, je ne sais pas, si tu es capable. C'est pas mal bon, hein? Pas mal créateur. Je pense qu'il pourrait trouver un moyen de faire la musique avec ça. Mais essayer de scier du bois avec ça, ça ne marche pas. Deux choses qui sont complètement différentes, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une chose qu'ils ont en commun. Ils ont tous les deux la capacité de se brancher dans le mur. N'est-ce pas? Et laisse-moi vous dire, Dieu ne fait exception de personne. La prise qui est là ne fait exception de personne. Quand on se branche, la prise ne pose pas la question, mais là, ça c'est une scie qui est à l'autre bout du fil, hein? J'ai pas le goût de donner du courant. Moi, je veux pas entendre le bruit de scie. Hein? Je veux entendre la musique. Donc, si quelqu'un vient et branche un clavier, là, je vais laisser mon courant sortir et je vais faire mon œuvre. Vous savez, la prise ne fait exception de personne. Aussi longtemps que vous avez ces deux choses-là, le courant, et vous êtes branché dedans, le courant peut couler. La puissance peut entrer dans le fil, n'est-ce pas? Quelles sont ces deux choses-là? Hébreux chapitre 11, verset 6 dit ceci. Or, sans la foi, on peut dire que ça représente notre foi, n'est-ce pas? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que... Regarde bien. Celui qui s'approche de Dieu, il faut deux choses. Il faut deux choses. Pour que le courant passe, deux choses. Il faut qu'il croie que Dieu existe, premièrement. Est-ce que vous êtes d'accord que si on avait une seule partie, ça ne marcherait pas, hein? Il faut croire que Dieu existe. Et c'est quoi la deuxième chose dans le verset? Il faut croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous ne croyez pas que Dieu existe, ça ne marche pas. Mais si vous croyez que Dieu existe, mais vous ne croyez pas qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça ne marche pas non plus. Le courant ne va pas fonctionner. Donc, qu'est-ce que ça prend? Pourquoi est-ce que ça prend la foi pour être guéri? C'est la foi est la chose qui nous donne la capacité de se brancher avec Dieu. C'est par la foi que je dis, Seigneur, je crois que tu existes, je crois que tu es Dieu, et deuxième chose, je crois que tu m'aimes et que tu es un rémunérateur, et que tu veux me bénir, que tu veux me guérir, que tu veux me sauver. Ça, c'est la foi. Amen? Ça ne marche pas. Ça marche. Il y a beaucoup de personnes dans la salle aujourd'hui qui croient que Dieu existe. Je ne comprends pas. Je crois que Dieu existe, mais il n'y a rien qui se passe. Oui, tu crois que Dieu existe, mais peut-être en même temps, tu crois que c'est Dieu qui veut que tu souffres avec telle chose. Tu veux même que c'est Dieu qui t'a donné une telle maladie, un tel problème. Et il y a aussi longtemps que tu crois cela, même si tu crois que Dieu existe, ça ne marche pas. Il y a des personnes qui disent, oh, je crois que Dieu existe, mais je ne sais pas s'il veut m'accepter. J'ai trop fait de gaffes dans ma vie. J'ai été trop méchant. Il ne m'aime pas. Je ne crois pas que Dieu m'aime. Ça ne marche pas. Donc, il faut ajouter, il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu existe, il m'aime. Il m'a accepté en Jésus. Il a déjà donné une pleine provision pour ma vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La foi nous aide à se brancher avec Dieu. Dieu ne fait exception de personne, mais il honore la foi. Le courant va marcher aussi bien pour une scie que pour un clavier, aussi longtemps que les deux sont branchés. La puissance de Dieu va couler pour une femme aussi bien que pour un homme. Amen. Pour peu importe qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, la foi va marcher pour vous. Amen. Donc, juste terminer ceci. Si c'est par la foi qu'on reçoit de Dieu, il y a juste trois choses. On ne va pas prendre le temps de tout lire parce qu'on veut donner le temps à nos amis qui vont se faire baptiser à donner un petit témoignage. Mais qu'est-ce qu'on peut recevoir par la foi? Si on croit que Dieu existe, qu'il est un rémunérateur, premièrement, il faut recevoir, numéro un, son pardon. Vous vous rappelez, il y avait l'histoire en Matthieu 9, Jésus était monté dans une barque, traversait la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, vous savez que la foi se voit. On peut voir la foi parce que la foi sans œuvre est morte. C'est-à-dire que si je crois vraiment, je vais agir. Si je suis dans la rue et tu dis, « Hey, il y a un camion qui vient à toute vitesse, tu vas te faire écraser. » Si je dis, « Ah oui, je crois qu'il me dit la vérité. » Je crois que le gars existe. Le gars qui m'a dit ça, il existe, oui. Oui. Si je crois vraiment, je vais faire quoi? Je vais bouger. Je vais me sauver. Je vais sauter et faire quelque chose pour sauver ma peau, n'est-ce pas? Pardon. Quand il a vu la foi, il dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Pourquoi est-ce que ce monsieur est entré chez lui guéri et pardonné? C'est parce qu'il a cru et il a agi sur la foi, par la foi. Recevez son pardon, deuxièmement, recevez sa puissance. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grand parce que je m'en vais au Père. Si vous croyez en Jésus, vous devrez avoir des signes et des miracles qui vous accompagnent. Mais je ne crois pas à ça, mais vous ne le verrez pas non plus. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jésus. Mais on ne voit pas ça. Est-ce que vous croyez cela? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. On peut avoir du fun. Numéro 3, recevez ses promesses. Dieu a fait des promesses et c'est par la foi qu'on peut obtenir les promesses. Dieu a promis toutes sortes de choses. En Hébreux 11, c'est marqué que par la foi qu'ils ont obtenu les promesses. Tout ce que Dieu vous a promis dans sa parole, vous pouvez recevoir par la foi, en croyant que Dieu existe et en croyant qu'il est un rémunérateur. Amen. Et ce matin, on va aller chercher les enfants si c'est déjà fait. Hein? Est-ce que tu peux avertir aussi, Tania, dans la pouponnière? Aujourd'hui, on a 5 personnes qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont pris une décision de croire pas juste que Dieu existe, mais de croire que Dieu est un rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ces 5 personnes vont venir, ils vont se faire baptiser. Et en fait, je vais les inviter tout de suite à venir sur l'estrade avec moi. Les 5 qui sont ici présents. On a des personnes différentes ici. Ils ont les personnalités différentes, les arrière-plans différents, un vécu différent. Mais ils ont tous une chose en commun. N'est-ce pas? Ils croient que Dieu existe et ils croient que Dieu est un rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ils vont suivre le Seigneur dans les eaux de baptême. Pourquoi? Parce que c'est premièrement un commandement. Jésus l'a dit. D'aller se faire baptiser. Ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve une personne. Laisse-moi vous dire une chose, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Si quelqu'un pense que le baptême va les sauver et garantir la vie éternelle, ce n'est pas vrai. Mais une personne qui est sauvée, une personne qui a reçu Jésus par la foi, qui a confessé avec sa bouche le Seigneur Jésus, qui a cru dans son cœur, cette personne devrait avoir le désir d'obéir à Jésus et de le suivre en se faisant baptisant. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Et en verset 1, Romains chapitre 6, que je vais lire, je l'ai même mis dans vos notes pour vous aujourd'hui. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis ou enterrés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Tout le monde est nouveauté de vie. Ces personnes ont cru en Jésus-Christ et ils veulent s'identifier avec Jésus ce matin dans sa mort. Pourquoi? Ils sont crucifiés avec Jésus. Comme Paul a dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Dans son enterrement, ils vont dire, dans le fond, à partir d'aujourd'hui, la personne que j'étais avant, la vieille vie que je menais avant, c'est fini. Je vais l'enterrer. Et je vais sortir de ces eaux de baptême pour marcher en nouveauté de vie, comme une nouvelle création. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et aujourd'hui, on a l'occasion, la joie et l'honneur d'avoir quelques témoignages. On va commencer avec Joanne. On a besoin d'un micro. Jean-Charles, est-ce que je peux prendre? Oh, c'est là-bas.
Alors, bonjour. Moi, personnellement, j'ai toujours cru profondément en Dieu. Jeune, j'ai eu l'enseignement catholique romain qui m'a donné quand même une bonne base, qui m'a permis de développer aussi ma foi. Sauf qu'à un moment donné, vers l'âge de 20 ans à peu près, ça ne répondait plus à mes attentes, ça ne répondait plus à mes questions. Alors, je me suis retirée. Mais j'ai toujours continué de croire en l'amour de Dieu et en sa miséricorde. Mais je ne savais pas trop comment me retrouver dans tout ça. Alors, à un moment donné, j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui m'a parlé de Jésus et qui, pendant à peu près 6 mois, répondait à mes questions, m'apportait... À chaque semaine, les témoignages, ils me les apportaient, les petites feuilles là, qu'ils nous remettent à chaque semaine. Je les étudiais, je les regardais, et ça répondait quand même assez bien à ce que je voulais entendre. Ça répondait à mes questions aussi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils me disent « Pourquoi tu viens pas voir ce qui se passe à notre église? » Et je suis allée. Je suis venue ici à partir de février à peu près. Et ça a été... comme ça que vraiment j'ai adopté cette église. Donc, je te dis merci de tout mon cœur. Que Dieu te bénisse, Frédéric. C'est à cause de toi et à cause de Cécile aussi que j'ai le goût de poursuivre ma route. Aujourd'hui, par mon baptême, pour moi, c'est vraiment un acte de foi en Jésus-Christ, d'abord, que je veux poser. Et je demande aussi à ce que l'Esprit-Saint vienne en moi pour renouveler mon esprit, mon âme et mon corps, pour que dans l'avenir, je puisse être, je pense qu'on a besoin, aujourd'hui plus que jamais, on a besoin d'avoir des exemples, d'avoir des modèles, ne serait-ce que d'être un exemple pour ma famille, mes enfants, mon entourage, les gens que je côtoie, en étant capable de leur donner des paroles réconfortantes, en ayant les bons mots, en fait, pour que par mon exemple, je puisse les influencer. Pour moi, ce sera déjà une grande réussite. Alors, merci.
Bon dimanche, tout le monde. Moi, je m'appelle. Je m'appelle Martin. Quand je me suis remis à penser depuis les derniers jours, d'où est-ce que j'arrive depuis un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vraiment, moi, ma vie, elle s'en allait absolument nulle part. J'étais perdu, découragé. Il n'y avait aucun sens à ma vie. Jusqu'à un moment donné, je suis arrivé à un chemin où j'ai eu un choix. Puis j'ai décidé de crier à Dieu, que je connaissais plus ou moins. Puis Dieu, il m'a vraiment répondu parce qu'il m'a amené à des endroits où ce que lui, il voulait me connaître comme le refuge. Le refuge, pour moi, c'était vraiment une révélation parce que j'ai appris à connaître Dieu d'une façon différente que je l'avais connu. Que c'était pas un Dieu qui punissait, que c'était pas un Dieu qui me faisait subir toutes les affaires qu'on avait, en tout cas moi dans ma vie, que j'avais reçues par la tête. J'ai appris que c'était un Dieu qui m'aimait et que j'étais pas une exception à personne d'autre. J'ai appris que le Seigneur, si tu le recherches, si tu le demandes, ben tu vas le trouver, c'est pas... ce qui est important que j'ai vu, c'est qu'il faut que tu sois disponible aussi. Si tu n'es pas disponible à Dieu, je pense que ça peut te... c'est là que ça peut te bloquer. Pour moi, c'était ça. J'étais disponible. Puis je remercie le refuge de m'avoir donné l'opportunité de connaître ça. Puis je peux dire aux gars aussi, c'est ça justement ce qui est important, c'est pas que moi je suis une exception, c'est que si vous faites ce que vous avez à faire, si vous travaillez pour, puis si, comme je dis, si vous êtes disponible aussi, Dieu m'aime pas plus qu'un autre, il vous aime autant, puis vous aussi, vous allez être capable de passer à travers. Fait que je vous invite à ne pas lâcher et à ne pas être découragé. Amen.
Bonjour, frère et sœur. M'attendez-vous bien? Je me fais baptiser parce que je crois au Seigneur. Il est entré dans ma vie. Je suis devenue fille de Dieu. C'est le jour de mon baptême. Le Seigneur vous bénisse. Amen.
Bonjour. Désolée, je suis gênée, là. moi, je m'appelle Sylvain Albert, j'ai 13 ans. Moi, je suis née à Saint-Blaise, proche de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mes parents sont Sylvain et Claude Albert. Je vois pas, là. j'ai un frère, David, qui a 15 ans, un autre frère, Michael, lui, il a 18 ans. J'ai aussi une sœur, elle s'appelle Catherine, elle a 22 ans, elle est mariée à Stéphane Provencher. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Anthony, mon filleul, qui a 3 ans, et Charlotte, ma nièce, qui a 2 mois. Elle shake. moi, je viens d'arriver à l'église La Vie Comblée, mais j'ai quand même été élevée par des parents chrétiens. J'ai accepté Seigneur Jésus comme sauveur vers l'âge de 5 ans, dans ma classe d'école du dimanche. Après avoir été sauvée, j'ai pas toujours marché droit. J'avais comme 3 personnalités. À l'école, la première, là, que les professeurs n'aimaient pas trop. À la maison, par exemple, j'étais pas mal normale, puis à l'église, certaines personnes me voyaient comme l'enfant sage et modèle, là. Mais à travers les étapes de la vie, le Seigneur m'a montré à être vrai. Ouh, je suis rendue où, là? C'est après une épreuve que j'ai vu que j'avais vraiment besoin du Seigneur. Non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Et qu'il voulait que je me fasse baptiser. Heureusement pour moi, mes amis de mon ancienne église étaient là pour m'encourager à m'accrocher au Seigneur puis à continuer. Il y a surtout un verset qui m'a resté qui m'a surtout aidé, je dirais, pendant les moments qui ont été plus durs. C'est Jacques 1-2 qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Moi, je me fais baptiser parce que Dieu me le demande. En me faisant baptiser, ben, je vous dis que j'aime Dieu puis que je veux vraiment le suivre parce qu'il est mort sur la croix pour moi, pour vous tous, pour nos péchés. Puis ça, je le crois. Dans la Bible, il est écrit... Je me trompe de Bible, moi. Il est écrit... Mais quand tes heures crues à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Acte 8, 12. Bon, maintenant, je vais laisser la parole à mon amie Kate. Merci.
Bonjour. Ben moi c'est Kate, comme qu'elle l'a dit. On va chanter un chant que c'est grâce à Jean-Charles que je me fais baptiser parce que c'est lui qui avait organisé au mois de mai une conférence. Ben on avait organisé une conférence pour aller à Montréal voir la conférence jeunesse épicente. Puis j'étais allée là-bas, puis on chantait un chant, Me voici devant toi. Puis ce chant-là m'a vraiment poussée. J'ai comme. j'ai comme tombé à genoux à terre en pleurant, puis c'est là que c'est venu genre dans mon cœur de me faire baptiser. Donc ça fait 3 mois que j'attends de me faire baptiser, puis je commence à avoir hâte là.
Si on peut se lever debout, on va terminer la réunion ce matin avec le baptême. Et ils vont aller se préparer tout de suite et nous allons chanter juste un chant ou deux. Donc, ce matin, on a eu la joie de voir ces 5 personnes suivre le Seigneur dans les eaux de baptême. Et je sais que le ciel se réjouit, on peut se réjouir aussi. Dans le fond, c'est un commencement pour eux, continuation de leur cheminement avec le Seigneur. Mais moi, j'ai pris une décision il y a longtemps que à chaque dimanche matin, je ne laisserai pas passer un dimanche sans donner l'occasion à ceux qui viennent à la vie comblée de prendre leur propre décision, d'acter leur foi. Parce qu'il y a beaucoup qui croient que Dieu existe, mais souvent ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon, Dieu vous aime, et Dieu est un rémunérateur. La bonne nouvelle, c'est que même si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus est venu, il a souffert à ma place. C'est moi qui a mérité les clous. C'est moi qui a mérité la souffrance. C'est moi qui aurais dû porter une couronne d'épines. C'est moi qui aurais dû aller à l'enfer. Mais Jésus, dans son amour, a dit, je vais prendre sa place. Il est devenu mon substitut. Et il est devenu votre substitut. Et je crois que la plus grande tragédie qui soit, c'est que le monde entier sans exception, chaque être humain, homme, femme, garçon, fille, est déjà pardonné en Jésus-Christ. Le sang de Jésus est déjà versé. Son sang a déjà coulé sur la croix. Tout le monde est déjà pardonné. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cru. Ce n'est pas tout le monde qui a pris le temps de se brancher et de recevoir ce don gratuit. Et ce matin, si vous êtes ici, je vais juste demander à tout le monde de fermer les yeux. Si vous êtes ici ce matin, et vous direz, « Pasteur, moi je crois que Dieu est vivant. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et je crois même qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort à ma place, qu'il était enterré et le troisième jour qu'il est ressuscité. Mais vous n'avez jamais de votre propre gré reçu par la foi qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous n'avez pas reçu ce don gratuit. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'avez pas l'assurance à 100% d'avoir la vie éternelle. Ce n'est pas une question de faire partie de la vie comblée. Nous sommes une église locale. Il y en a d'autres bonnes églises locales. Ce n'est pas une église qui sauve. Ce n'est pas un homme qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas une confession, une dénomination. En réalité, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur. C'est Jésus. Et si vous êtes baptiste, pentecôtiste, méthodiste, peu importe la confession, votre arrière-plan, aussi longtemps que vous avez cru en Jésus-Christ et vous avez reçu Jésus comme votre sauveur et, comme Laurie a dit, votre maître, Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui dirige. C'est-à-dire que c'est lui qui prend le volant de la vie. C'est lui qui est en charge et nous, nous suivons. Avec les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, pasteur, j'ai besoin de recevoir par la foi le salut. J'ai besoin de savoir sans aucun doute que mon nom est écrit dans le livre de vie au ciel. J'ai besoin de savoir. Je m'affiche de ce que les autres pensent autour de moi. Car Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Mais Jésus a également dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. La seule opinion qui compte, c'est l'opinion de Dieu. Qu'est-ce qu'il pense? Donc ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, « Pasteur, j'aimerais que tu pries avec moi. Moi aussi, j'aimerais recevoir par la foi Jésus comme mon sauveur, comme mon maître. J'ai besoin, pas juste de croire qu'il existe, mais vraiment de croire qu'il est un rémunérateur et par la foi recevoir ce don. » Juste avec les yeux fermés, est-ce que quelqu'un, juste lever la main, qui dirait, « Oui, j'ai besoin de recevoir Jésus comme mon sauveur et mon maître aujourd'hui. » Quittez pas ce lieu sans recevoir Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais prier avec vous. On va faire une prière. Vous pouvez quitter ce lieu sachant, sans aucune doute, que vous êtes enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste lever la main. Moi, je suis sûr qu'il y a au moins une personne, ou deux, ou plus. Il y a une personne qui a levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de recevoir Jésus ce matin? C'est le temps. C'est le temps. On va prier pour cette personne qui a levé la main. Et je vais demander à tous qui sont présents de prier cette prière avec elle. Notre but, c'est vraiment par la foi d'aider cette personne à recevoir ce matin. Donc, on va prier cette prière ensemble. Père Céleste, je m'approche de toi au nom de Jésus. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur.
À partir d'aujourd'hui, je vais le suivre. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi. Et je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité et qu'il vit éternellement. Merci que je suis ton enfant. Ton Esprit Saint habite en moi. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a cette personne-là qui a reçu le Seigneur Jésus. On aimerait parler avec toi après. On peut te donner une Bible si tu n'en as pas. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez prié cette prière avec sincérité, avec foi, ce n'est pas juste les mots, mais c'est le cœur. Vous êtes des nouvelles créations. Amen. Donc, quelle joie! C'était une belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous êtes tous invités à revenir mercredi soir. C'est pour un temps d'étude biblique.